VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal au Congo-Brazzaville. L'opposition et la société civile attendent d'en savoir plus sur la mort vendredi en détention du colonel Marcel Nsour, ancien numéro 2 du Conseil national de sécurité. Il était incarcéré depuis 2014 pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon un communiqué du directeur central des services de santé des armées, Pascal Ibata, le colonel Marcel Nsouro est mort des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Timothée Donangmaï a joint à Brazzaville Trezor Nzila, président exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Il règne autour du décès de Marcel Nsour. Et nous pensons que, pour plus de transparence, le gouvernement doit accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Selon les autorités, Marcel Nsour est décédé des suites de problèmes médicaux.
Ça fait quand même trop rapide. Aucune expertise n'a été menée. Ils ont conclu que c'est un arrêt cardiaque. Bon, on peut bien le croire. Maintenant que nous demandons une vraie expertise médicale, une enquête indépendante, je pense que s'ils n'ont rien à se reprocher, ils doivent accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Quelle a été la réaction de la famille du défunt?
La famille du défunt déplore la mort de leurs parents. Ils sont en train de s'organiser pour prendre une position par rapport à ça. Mais je pense que Marcel Nsour était assisté par des avocats. Ces avocats ont pris position. Je pense que c'est aussi la position de la famille. Les avocats demandent la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
Trezor Nzila, président exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, joint à Brazzaville. En République démocratique du Congo, des élus des trois provinces du Kasaï accusent les autorités de privilégier une solution militaire aux violences qui embrasent leur province. Les affrontements dans le Kasaï sont rares en septembre entre les forces de sécurité et la milice du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué le mois précédent, se sont maintenant étendus au Kasaï oriental et occidental. Voici la réaction de Claudel Lubaya, un député de l'opposition, joint à Lubumbashi par Timothée Donangmaï.
Les autorités ne font pas encore assez d'efforts pour identifier la cause réelle du problème. Ils ne font aucun effort pour apporter des solutions. Ils n'arrivent pas à trouver la voie de paix pour la province du Kasaï central avec ce débordement vers le Kasaï, vers le Kasaï oriental et peut-être demain on parle encore de la Lomami et consorts.
Qu'est-ce qui a été proposé à ce sujet?
D'abord, il faut que le gouvernement cesse de penser que c'est seulement par la violence qui pourra résoudre ce problème, mais plutôt qu'il opte pour la voie du dialogue. Mais ce dialogue-là aussi, pour qu'il ait lieu, il faut que le gouvernement s'engage à pacifier la province, mais aussi à se réconcilier et à remettre la dépouille mortelle du chef qui avait institué le chef Kamuina Nsapu à sa famille. Il a été également proposé au gouvernement qu'il prenne un certain nombre de mesures de réparation, en même temps aussi qu'il réhabilite les infrastructures scolaires, sportives et autres qui ont été détruites par le fait des affrontements qui ont commencé depuis août 2016.
Claudel Lubaya, un député de l'opposition congolaise, joint à Lubumbashi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, le délai de détention prévu par la loi est largement dépassé pour la plupart des détenus du centre de détention principal de N'Djamena. Le constat a été fait au cours d'une visite sur place du nouveau ministre de la Justice, Ahmad Mahamat Hassan, pendant le week-end. Il est le garde des Sceaux chargé de promouvoir les droits humains, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Visiblement abattus du fait de leur surpopulation, les détenus trouvent en ce nouveau ministre de la Justice un libérateur. Tout le monde cherche désespérément à lui expliquer les conditions de sa détention. Certains pensionnaires se disent être victimes de la lenteur judiciaire. D'autres, par contre, à défaut de plaignants, croupissent à la maison d'arrêt pendant des années sans être situés sur leur sort. Suivez ce qui ressort de l'entretien que le ministre de la Justice, professeur Ahmad Mahamat Hassan, a eu avec quelques-uns.
Tu as quel âge?
15
ans.
Ouais.
Non, tu dépasses 15 ans.
15 ans.
Tu es sûr, mon fils?
Sûr.
Tu as volé chaussures?
Ouais.
On ne t'a pas jugé depuis 6 mois?
Pas jugé.
Et tu es devenu sur à la maison d'arrêt.
Ouais.
Paraît-il qu'on a agressé une personne et on a dit que c'est nous les agresseurs.
Donc c'est une accusation.
C'est une accusation, c'est seulement. Ah. Personne ne m'a amené à l'hôpital 2014.
Depuis 2014, tu es en détention.
Je suis en détention ici.
Et on ne t'a pas jugé.
Personne ne m'a jugé.
Le ministre Ahmad Mahamat Hassan prend l'engagement de faire en sorte que tous les prévenus qui sont en séjour prolongé à la maison d'arrêt soient situés sur leur sort dans un délai raisonnable.
La grande majorité ayant un statut encore de prévenu ou d'inculpé. Alors il y a un peu plus de 500 qui ont été jugés et condamnés. Ça veut dire qu'il y a quelque part la preuve de la lenteur judiciaire ou des mécanismes de la recherche des preuves. Et donc ce dysfonctionnement, nous allons y remédier. Je verrai avec les magistrats quelles sont les difficultés pour cette lenteur judiciaire, pour cette surpopulation des gens ici. Si les trois principes juridiques ne sont pas mis en cause, il faut que le principe de la liberté soit retenu et que la détention soit une exception.
La réaction du syndicat des magistrats du Tchad au sujet de la lenteur judiciaire évoquée par le ministre ne se fait pas attendre. Pour le secrétaire général du dit syndicat, Djonga Harafi, les magistrats ne sont pas responsables de cette lenteur.
Nous, au niveau du syndicat, nous avons par exemple proposé qu'il y ait la comparution immédiate, c'est-à-dire tous les jours. Dès que les prévenus sont déférés, il va falloir directement les juger. Nous avons également dit qu'il faudrait mettre en place le système de flagrant délit quotidien. Aujourd'hui, nous ne disposons pas assez de salles d'audience pour permettre que les dossiers soient évacués rapidement. Construisez-nous des salles d'audience en quantité et demandez-nous le résultat.
Transformé en maison d'arrêt en décembre 2011, ce local d'une capacité de 300 places compte aujourd'hui 2032 condamnés et prévenus. Nonobstant la promesse du nouveau patron de la justice, les détenus ont pris à partie la délégation, dépossédant certains visiteurs de leurs objets matériels, parmi lesquels un journaliste. André Kodmadingar Ndiamena pour VO Afrique.
Conflit au Soudan du Sud, la famine sévit dans plusieurs régions du pays et la sécurité alimentaire de la moitié de la population pourrait être menacée d'ici juillet. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président du Bureau national des statistiques. De violents combats font rage entre les forces gouvernementales loyales au président Salva Kiir et les rebelles soutenant l'ex-vice-président Riek Machar. Malgré un accord de paix en 2015, le conflit a déjà fait plus de 3 millions de réfugiés et déplacés. Et l'ONU, qui dénonce ce qu'elle appelle un processus continu d'épuration ethnique, redoute un génocide comparable à celui qui s'est produit au Rwanda en 1994. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, compte environ 11 millions d'habitants. Crise migratoire maintenant, 300 migrants ont franchi dans la nuit de dimanche à lundi la frontière séparant l'enclave espagnole de Ceuta du Maroc. Et ce, trois jours après l'entrée massive de 498 immigrants clandestins dans ce territoire de l'Espagne. Plusieurs centaines de jeunes migrants d'origine africaine ont forcé la haute barrière grillagée de 6 mètres entourant l'enclave avant de célébrer en pleine nuit hier soir leur entrée dans l'enclave espagnole au cri de « Merci Seigneur, je suis en Europe », selon les images diffusées par le média local El Faro de Ceuta.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, les États-Unis célèbrent ce lundi President's Day, la fête annuelle dédiée au président américain. L'édition 2017 intervient alors que la Maison-Blanche a comme locataire le président Donald Trump, un chef de l'exécutif atypique qui défie les conventions. Timothée Donagmaï a recueilli l'analyse du professeur Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington.
La façon de gouverner du président Trump met en jeu le rôle du président, le pouvoir du président. Il y a toujours eu naturellement une tension, une petite lutte entre l'exécutif, le président et le Congrès ou aussi les tribunaux, le judiciaire. Mais dans ce cas, il est vraiment quelque chose de nouveau parce que le président Trump se comporte comme un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires qui décide lui seul ce qu'il va faire. Il l'ordonne et il espère normalement que ceux qui travaillent pour lui vont l'exécuter. Mais naturellement, dans une démocratie, ça ne marche pas. Parce qu'il y a trois branches de gouvernement qui sont au moins nominalement équivalents, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et je pense qu'on verra de plus en plus cette tension créer des problèmes très profonds. Jusqu'à maintenant, on parle un peu de lune de miel, c'est-à-dire que tout le monde essaie de lui donner son espace, son temps, de se définir. Mais je crois qu'il y aura très bientôt des grands conflits, particulièrement avec le Congrès.
Le professeur Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University, ici à Washington. Et pour terminer, relations États-Unis-Europe, le vice-président américain Mike Pence, qui poursuit à Bruxelles sa tournée européenne, a déclaré ce lundi que l'administration Trump cherchait le moyen d'approfondir les liens entre Washington et l'Union européenne. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.